Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir d'entendre ce générique. C'est la rentrée. Nous espérons que vous avez passé un bel été malgré le contexte et que vous êtes en pleine forme. Nous, nous sommes ravis d'être de retour avec vous. L'été a tout de même été actif de notre côté pour préparer une belle saison 4 de Libre à vous, l'émission sur les libertés informatiques. Ce jour de rentrée, bien sûr, on fait un message amical et un soutien à tous les élèves qui ont repris et au personnel de l'éducation nationale et un petit message particulier à ma femme qui est professeure des écoles et mes trois enfants qui ont repris aujourd'hui. Alors, au programme du jour, on va parler d'éducation nationale, de syndicats et de logiciels libres. Ce sera le sujet principal de l'émission. Avec également au programme les nouveautés de la saison 4 de Libre à vous, et également la chronique de Marie-Odile Morandi qui nous fera un retour sur les chroniques de Véronique Bonnet intitulée « Partagé et bon ». Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio diffuse également en DAB+, en Ile-de-France. Soyez les bienvenus pour cette édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. À la réalisation aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonnet en charge des affaires publiques. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Tu n'as pas trop chaud dans ton petit espace de régie avec le masque ?
Non, ça va.
Ça va ? Ok.
Faut.
Bah écoute, bonne réalisation.
Bonne émission à toi.
Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais également des points d'amélioration. Nous sommes mardi 1er septembre 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion à un podcast. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le site salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, cliquez sur le bouton de chat et rejoignez-nous sur le salon dédié à l'émission, dièse libre à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute et tout de suite, place au premier sujet. Alors, nous allons commencer par accueillir les personnes qui découvrent l'émission, en rappelant le concept de l'émission, et on parlera de quelques nouveautés de la saison 4. L'April est l'Association nationale de promotion et de défense du logiciel libre. Un logiciel est dit libre quand il accorde par sa licence d'utilisation, la liberté de l'utiliser sans restriction, mais également celle d'étudier son fonctionnement, de le copier, de le modifier et de le redistribuer. Quatre libertés fondamentales. C'est l'accès au code source du logiciel, la recette de cuisine, quelque part la recette de fabrication, qui permet l'accomplissement de ces quatre libertés fondamentales. Depuis mai 2018, l'April anime une émission d'explication et d'échange sur la radio Cause Commune sur les thèmes des libertés informatiques. Le titre « Libre à vous », l'émission se veut avant tout une émission d'explication et d'échange sur les données, les dossiers politiques et juridiques que l'association traite, sur les actions qu'elle mène, pour les libertés informatiques en général, et évidemment particulièrement le logiciel libre. Libre à vous, c'est aussi un point sur les actualités du libre, des personnes invitées au profil varié, de la musique sous licence libre, et on va en parler dans les nouveautés, des actions de sensibilisation. Donner à chacune et chacun, de manière simple et accessible, les clés pour comprendre les enjeux, mais aussi proposer des moyens d'action. Tel est l'objectif de cette émission hebdomadaire. Alors, les podcasts des trois premières saisons sont à votre disposition. 71 émissions découpées en plusieurs sujets, disponibles individuellement d'une dizaine de minutes à une heure. La radio, c'est avant tout des voix. Mais peut-être aimeriez-vous bien explorer les coulisses de l'émission, voir comment cela se passe derrière les micros de Cause Commune. Alors, pour cela, nous avons mis en ligne, sur le site de l'April, une bande-annonce vidéo pour montrer des images, des visages, dont vous pouvez retrouver sur april.org, mais également sur causecommune.fm, une bande-annonce qui vous permet de découvrir un petit peu les coulisses. Je vous rappelle également que la radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur web, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, cliquez sur chat, et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Alors, toute nouvelle saison apporte son lot de nouveautés. Aujourd'hui, c'est la saison 4. Alors, Libre à vous, c'est aussi, en plus des personnes invitées, des chroniques mensuelles sur des thèmes variés. L'équipe des chroniques se renouvelle à l'intersaison, un petit peu comme dans le sport. Certains sont partis, certaines personnes sont parties et d'autres sont arrivées. Ainsi, Emmanuel Reva et Xavier Bern ont décidé d'arrêter leur chronique. Alors, Emmanuel interviendra ponctuellement dans l'émission. Quant à Xavier Bern, qui était journaliste au magazine d'actualité Next Impact, il a rejoint l'équipe parlementaire de la députée Paula Forteza et nous lui souhaitons le meilleur, évidemment, dans cette aventure. Nous avons donc aussi le plaisir d'accueillir dans l'équipe des chroniques deux nouvelles personnes. Alors, Eric Frodin, du site Au bout du fil, auboutdufil.com, qui propose une sélection de musique libre dans tous les styles musicaux. Donc, Eric fera une chronique musicale mensuelle. Sa première chronique aura lieu mardi 15 septembre. Mais Eric va également nous aider pour la programmation musicale de l'émission en nous sélectionnant des pupitres musicales libres. Si vous voulez découvrir un peu plus le site auboutdufil.com, vous pouvez évidemment le visiter. Et également écouter l'interview d'Eric dans l'émission Libre à vous du 14 avril 2020. Nous avons également la joie d'accueillir Isabelle Carrère de l'association Antanac, donc antanac.com, qui agit notamment pour l'appropriation de l'informatique par toutes et tous. Il se trouve que les locaux d'Antanac sont situés juste à côté du studio de la radio. Le studio, c'est au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e à Paris. Les locaux d'Antanac, c'est au 22. Et dans sa chronique, Isabelle nous fera partager son expérience, notamment dans l'accompagnement de personnes débutantes en informatique. Sa première chronique aura lieu mardi 8 septembre, donc la semaine prochaine. Et si vous voulez en savoir plus sur son activité d'Antanac, vous pouvez écouter l'émission du 23 juin 2020 sur le thème du réemploi informatique dans lequel Isabelle intervenait. Et je précise également que Isabelle Carrère anime aussi une émission sur Cause Commune intitulée « Un coin quelque part » qui porte sur la maison, sur l'habitat. Toujours dans les nouveautés, nous avons mis en place une lettre d'information pour l'émission. Vous pouvez vous y abonner depuis les pages consacrées à l'émission sur april.org ou causecommune.fm pour recevoir les annonces des podcasts, des émissions à venir et toute autre actualité en lien avec l'émission. Et enfin, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour nous poser une question ou tout simplement pour nous laisser un message de sympathie, et on adore les messages de sympathie. Il faut savoir qu'à la radio, on a très peu de retours, donc voilà, on est preneurs de retours. N'hésitez pas, simplement, si vous avez envie de nous dire que vous aimez bien l'émission, vous pouvez nous laisser un message, et si vous avez envie d'apporter des points d'amélioration, ou même des critiques constructives, n'hésitez pas. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46, je répète, 09 72 51 55 46. Voilà, ça c'était les principales nouveautés de la saison 4. On va faire une petite pause musicale. Alors, cette pause musicale n'a pas été proposée par Eric Frodin, elle a été proposée par Marie-Odile Morandi qui interviendra en fin d'émission. Nous allons écouter Pixel Picker Polka par Kevin MacLeod. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Nous venons d'écouter Pixel Picker Polka par Kevin MacLeod, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser cette musique comme bon vous semble à partir du moment où vous créditez l'auteur de la musique. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org et sur causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les syndicats de l'éducation et le logiciel libre. Alors le sujet a été enregistré il y a quelques jours car les deux personnes invitées travaillent aujourd'hui lors de la diffusion de l'émission car c'est la rentrée des classes comme vous le savez. Donc nous allons écouter ce sujet enregistré et on se retrouve après.
Bonjour, je m'appelle Étienne Gonu, je suis en charge des affaires publiques pour l'April. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Jean-François Claire du Syndicat National de l'Enseignement Supérieur, SNES-FSU, et Renaud Colombel du Syndicat Général de l'Éducation Nationale, SGEN et CFDT, pour échanger sur la question du logiciel libre dans l'éducation nationale, avec la grille de lecture qui est la leur, celle des syndicats. Nous sommes le mardi 25 août et une fois n'est pas coutume, nous enregistrons notre sujet en avance pour la simple raison qu'au moment de la diffusion de l'émission, qui sera elle en direct le mardi 1er septembre, ce sera la rentrée des classes et que nos invités seront à ce titre bien occupés. Et Jean-François me corrige, c'est de l'enseignement secondaire, pas supérieur. Excusez-moi. Jean-François Claire, du coup, Renaud Colombel, bonjour. Je vais préciser donc aussi, bien sûr, que, étant donné le contexte sanitaire en Ile-de-France, nous enregistrons l'émission non pas en studio, dans le studio de la Radio Cause Commune, mais à distance avec le logiciel libre Mumble, comme nous le faisions à la fin de la saison précédente. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, vous-même et vos structures syndicales, Jean-François Claire du SNES FSU, ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît.
Oui, bonjour. Le SNES FSU, c'est le syndicat majoritaire de l'enseignement secondaire, donc SNES. Et FSU, c'est la Fédération syndicale unitaire qui regroupe quarantaine d'organisations syndicales, essentiellement sur la fonction publique, mais essentiellement aussi autour de l'enseignement. Donc on a le SNESUP, le primaire, le SNESUP pour le supérieur, etc., etc. Le secondaire, donc, c'est de la sixième à la terminale, avec quand même aussi de temps en temps les BTS et les classes préparatoires. Et je ne sais pas ce que vous voudriez bien que je dise d'autre pour présenter comme ça juste le syndicat. Voilà.
Et toi, du coup, quel est tu travailles ? Je ne sais pas si tu es à temps plein à ton syndicat. Quel est ton mandat dans ce syndicat ?
Alors oui, j'ai oublié de me présenter effectivement. Je pensais trop à mon organisation syndicale. Donc moi, je suis professeur de mathématiques. J'ai toute petite décharge de 2 heures pour m'occuper du numérique. Donc je suis responsable de tout ce qui est numérique au sein du SNES FSU. Professeur de mathématiques dans un collège REP Plus à Paris. Et on a une équipe numérique qui travaille à l'intérieur du SNES FSU. De la même manière qu'il y a de temps en temps des regroupements des différents responsables ou interlocuteurs privilégiés des autres organisations syndicales à l'intérieur de la FSU. Par exemple, en ce moment, on est en train de travailler pour la FSU sur l'élaboration d'une demande de service public numérique pour l'éducation.
Ok, je précise des charges, c'est en gros, tu pourras me corriger, mais sur ton temps de travail, on a le droit de travailler un certain nombre d'heures, un certain nombre d'heures de temps de travail peuvent être allouées au travail en syndicat.
Absolument, c'est l'équivalent de ce que le privé appelle de la délégation syndicale.
Parfait, donc Renaud Colombel, bonjour à nouveau, est-ce que toi aussi du coup tu peux te présenter ainsi que ta structure s'il te plaît ?
Alors. Bonjour à tous et toutes, auditeurs, auditrices. Je suis Renaud de Colombel, je suis militant technique pour la Fédération des SGEN CFDT. Donc les SGEN, c'est les syndicats généraux de l'éducation nationale. C'est un des syndicats qui représentent toutes les catégories de personnel, des titulaires comme des non-titulaires, des enseignants, des personnels techniques et administratifs, les personnels de direction, les secrétaires, etc. Le SGEN représente les personnels de plusieurs ministères, ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mais aussi l'enseignement supérieur et la recherche et l'innovation, la partie enseignement du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Voilà, et puis mon rôle à moi dans cette fédération syndicale, c'est d'être un peu le personne ressource numérique qu'on trouve dans les établissements pour la fédération, c'est-à-dire de fournir à mes camarades les moyens de travailler avec les outils numériques.
Toi, du coup, ta décharge, tu es déchargé à 100%, si je me trompe pas.
Voilà, alors moi je suis plus en classe, moi j'étais professeur des écoles et je ne suis plus en classe pour le moment puisque je travaille à 80% pour la fédération au niveau national et 20% pour le syndicat SGEN CFDT Alsace.
Ok, merci de ces précisions. Et c'est intéressant de voir justement qu'il y a différents profils, différentes manières d'être aussi, de participer au sein d'une structure syndicale. Et puis du coup ça vous donne aussi vos prismes de lecture peuvent aussi varier par rapport à ça, donc ça je pense que c'est intéressant au-delà peut-être des positionnements politiques de vos syndicats respectifs. Et je vais préciser d'ailleurs que vos deux structures syndicales sont membres de l'April, ce qui du point de vue de l'April, dans la mission de promotion et défense du logiciel libre, voilà, la mission qu'elle se donne, et c'est quelque chose de très intéressant parce que de la part de l'impact politique que peuvent avoir les syndicats et de la capacité de sensibilisation aussi des professions que vous représentez. Et en plus, voilà, dans l'éducation nationale, c'est quelque chose d'extrêmement important d'avoir un poids du poids pour promouvoir et défendre le logiciel libre. Et du coup, avant qu'on aille au cœur de notre vaste sujet du jour, l'éducation nationale et le logiciel libre, et possible qu'on fasse d'autres itérations sur ce sujet, sans doute même au sein de cette saison 4 de Libre à vous, je pense qu'il serait intéressant pour que vous nous précisiez votre grille de lecture, justement, le sens de votre action, et c'est pour ça que j'aimerais vous poser une question d'apparence toute simple, c'est quoi un syndicat ? Renaud, puisque si tu veux continuer ta prise de parole.
Absolument. Alors, un syndicat, c'est une. Alors, si on regarde une définition comme celle qui est sur Wikipédia, par exemple, on peut résumer organisation de défense des intérêts des salariés. Alors, les salariés, je l'ai dit, pour nous, c'est toutes les catégories de salariés. Les intérêts des personnels, c'est le suivi de carrière, le salaire, l'avancement, les conditions de travail. Le recrutement, les horaires, ce qui est attendu par l'employeur. Comment on procède entre guillemets pour défendre tous ces personnels? Tout simplement en écoutant les personnels, en les rencontrant à différents niveaux, dans les établissements, dans des réunions, dans des heures d'information, etc. Sur les réseaux sociaux, dans nos colloques, dans nos conseils syndicaux, on construit ensemble des propositions, un peu un programme politique, si on peut dire, après on va présenter et essayer de faire adopter par l'administration dans différentes instances.
Super, très clair, merci. Jean-François, quelle est toi ta lecture de cette question d'apparence simple ?
J'ai pas grand chose de différent à dire, c'est effectivement un syndicat, c'est destiné essentiellement à défendre les salariés ou les personnes qui travaillent. On pourrait parler plutôt de travailleurs dans un sens un peu plus général. Je préciserai juste un truc par rapport à ce que Renaud a dit, c'est que quand il parlait de la façon dont on construisait une espèce de politique, en fait, on se dote à ce moment-là, à l'intérieur d'une organisation syndicale, de ce que l'on appelle des mandats. Et par exemple, là, moi, je suis tout à fait mandaté pour parler au nom du SNES FSU. Je ne suis pas mandaté pour parler au nom de la FSU. Par contre, je peux présenter des mandats de la FSU, puisqu'on est adhérent à la FSU. Donc, il y a des structures à l'intérieur d'une organisation syndicale, mais en gros, le syndicat, il est fait par ses syndiqués. C'est-à-dire que ce sont les adhérents qui vont déterminer à travers leur expression, leur action, la façon, les élections internes qu'il va y avoir dans l'organisation syndicale au moment des congrès. Donc ce sont les adhérents qui vont déterminer quelle est l'orientation que va devoir suivre l'organisation syndicale.
Absolument, c'est lors des congrès, c'est un peu comme quand on réunit le Parlement, entre guillemets. Alors les congrès, c'est pas tout le temps, hein, c'est des événements exceptionnels qui se tiennent à peu près tous les 4 ans chez nous, que les adhérents font entendre leur voix et pèsent par le vote, puisque nous, dans CFDT, le D, c'est démocratique, donc à tous les niveaux de nos instances, comme disait Jean-François, on procède on prend des décisions sur des bases démocratiques, c'est-à-dire du vote, des mandats en fonction du poids des uns et des autres.
Merci de ces précisions, et c'est vrai que cette notion de mandat est très importante. Et puis, je me permets un petit parallèle que je me suis déjà fait. Par ailleurs, on voit aussi peut-être, d'une autre manière, un parallèle qu'on peut faire par rapport à une association comme l'April. L'April n'est pas du tout un syndicat, mais elle réunit non pas du coup des travailleurs et travailleuses, mais plutôt des personnes qui vont partager une certaine conception de l'intérêt général, une éthique, l'éthique du logiciel libre, et qui vont se réunir et respecter au sein d'une structure pour défendre ce qui leur semble être leur éthique, tout simplement. Puisqu'on commence justement à parler de politique, de défense finalement de certaines convictions, comme je disais, de structures sont membres, ont adhéré à l'April, et donc ça montre déjà, ne serait-ce que par cette action, un engagement vers le logiciel libre. J'ai dit pour l'April, c'est quelque chose de très positif. On est très heureux, que ce genre de personnes morales adhèrent, soient membres de notre association. À l'inverse, pourquoi c'est important pour des syndicats, notamment des syndicats de l'enseignement secondaire, d'adhérer à une association comme l'April?
Jean-François, c'est pour toi cette question, parce que on parle du secondaire. Moi, ça sera une réponse un peu plus large.
c'est très très simple. Hein. C'est tout simplement parce que ça fait partie de nos convictions fondamentales. Depuis des années, nous avons comme mandat justement la défense du logiciel libre et, dans la mesure du possible, l'utilisation prioritaire de tout ce qui est logiciel libre, parce que c'est aussi une philosophie, une façon de penser, le monde informatique. Ça nous a semblé tout à fait naturel de rejoindre l'April en y adhérant.
Alors si je peux me permettre de resituer un petit peu, enfin de rappeler certains principes, peut-être pour les auditeurs qui découvriront le logiciel libre ou le logiciel libre dans l'éducation nationale avec cette émission, par rapport aux 4 libertés offertes par le logiciel, par la licence d'utilisation du logiciel libre, qui sont d'utiliser, quel que soit qui qu'on soit, où qu'on soit, d'étudier le code, voir comment fonctionne le logiciel, redistribuer les logiciels, avoir le droit de donner des copies de ce logiciel à qui on veut, et puis de modifier et de diffuser ces modifications. Nos valeurs, les valeurs de la CFDT, les 5 valeurs de la CFDT sont quasiment parallèles, on va dire, ou se recoupent largement avec les valeurs du logiciel libre. Alors, parmi les valeurs CFDT, l'émancipation, avoir les outils pour être maître de sa vie, la démocratie, être acteur, participer aux prises de décision, l'indépendance de tout État, de tout parti, de toute religion. L'indépendance est aussi un des bénéfices de l'utilisation des logiciels libres. L'autonomie, ne pas être tributaire de ressources externes, est permise par le modèle économique du logiciel libre. Et la solidarité, l'entraide, la défense des droits de tous et la lutte contre les discriminations sont assurées largement. Je vous fais pas le détail des croisements qu'on peut avoir entre les 4 libertés offertes par le logiciel libre et les valeurs de la CFDT, ça paraît assez évident, mais c'est pour nous la base de notre adhésion au logiciel libre et donc de notre soutien à l'April qui promeut et défend les logiciels libres au niveau national.
Super, et merci pour ce. C'est vrai que je parlais d'éthique du logiciel libre, tu l'as parfaitement finalement défini à ce à quoi ça correspondait. Merci Renaud de Colombelle. Et du coup, si je comprends ce que vous me dites, c'est du coup l'adhésion n'a pas fait l'objet de résistance particulière, elle a coulé elle est arrivée comme une évidence au sein de vos structures. Vous avez dû batailler pour l'obtenir, c'est que c'est pas forcément toujours évident.
Dans le cas de mon organisation syndicale, ça n'entrait pas directement dans le champ des partenariats qu'on pouvait établir en général. Ceci dit, il n'y a pas eu de résistance particulière. Bon, Renaud a très très bien expliqué les cinq points fondamentaux autour du logiciel libre. C'est comme s'il s'agit de valeurs qu'on défend aussi. C'est venu naturellement, voilà.
Alors personnellement, la petite anecdote de l'émission, c'est que moi j'ai rejoint un syndicat, le SGEN, un CFDT, il y a 20 ans, parce que il y a plus de 20 ans, ce syndicat avait lancé un appel à soutenir le logiciel libre. Et il m'avait envoyé ça dans un document Word. Donc je suis allé les trouver. Et je leur ai proposé de leur apporter mon aide pour se mettre en conformité avec leurs idées. Et on a adhéré à l'April, ça fait 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Donc le chemin est parfois long. Je suis pas le seul, il y a plein de monde dans nos structures qui sont convaincus des intérêts des logiciels libres et de la nécessité de les défendre, de les faire avancer. Le chemin est long, mais la voie est libre, comme dirait Framasoft.
Belle citation. Et tu soulèves quelque chose, je te donne la parole juste après, Jean-François. Tu soulèves quelque chose que je pense qui est important et au-delà de notre sujet de l'éducation nationale, au-delà de la question des syndicats, dans ton attitude, là, tu as vu quelque chose, une incohérence, et c'est quelque chose qu'on peut voir au quotidien avec les administrations, dans une entreprise, qu'importe. Il faut pas tout de suite arriver dans l'idée c'est des nuls, je vais leur rentrer dedans, mais au contraire y voir des opportunités de proposer autre chose et de montrer autre chose et de on peut pointer une incohérence et c'est bien de le faire et mais on peut le faire de manière constructive comme tu as su le faire et puis on voit du coup à quel bénéfice ça a pu produire. Jean-François Clair, tu souhaitais ajouter quelque chose?
Non, je voulais juste aller un peu dans le sens de ce que disait Renaud, faire preuve aussi d'une forme de pragmatisme, c'est toi qui viens de le signaler, à savoir que il y a aussi des mauvais réflexes, des habitudes, et il y a tout un apprentissage en fait à faire, parce que finalement le logiciel libre n'est pas toujours formaté entre guillemets pour être aussi facilement utilisable que peut l'être celui qui est vendu de manière tout à fait commercial et propriétaire, parce qu'il y a aussi ce truc-là, le côté propriétaire. Et moi, je vois bien, on est à l'April, on utilise au SNES énormément d'outils qui viennent du monde du libre. L'ensemble de notre infrastructure informatique est basé sur des solutions libres. Et à côté de ça, on a quand même toujours des collègues qui préfèrent sérieusement utiliser un document en Word plutôt que d'utiliser un document, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en Apache.
Open Document.
ODT, voilà, c'est ça.
Oui, c'est très important en tant que militant, non pas syndical, mais militant du logiciel libre. Je fais aussi partie d'un LUG et on sait...
Qui est un groupe d'utilisatrice du logiciel libre, je me permets juste de le préciser.
Merci Étienne. Donc un groupe d'utilisateurs de logiciels libres, quand on agit dans un groupe comme ça et qu'on va à la rencontre du public, c'est pareil que quand on essaye d'expliquer ça à nos collègues, ça ne va pas de soi, mais expliquer, montrer les avantages, essayer d'emporter l'adhésion est pour moi, de mon expérience, la seule démarche qui produise des fruits à long terme.
Très juste. Jean-François, tu souhaitais rajouter ?
Oui, j'aurais presque fait un parallèle finalement avec la protection des données et le RGPD. C'est-à-dire que il y a eu une idée, une grande idée, Et puis derrière, il faut arriver à la mettre en place. Et pour la mettre en place, ça nécessite énormément de pédagogie.
Et on sait, de toute façon, surtout, voilà, vos structures ne sont pas des petites structures, et on sait, voilà, c'est toute la logique d'accompagnement au changement, et dans des démarches, voilà, pragmatiques aussi, en partant des besoins des utilisateurs et des utilisatrices, et toujours, voilà, aussi par la, montrer l'exemple. Et ça, c'est une chose importante, et par ailleurs, vous avez répondu notamment à une question que je me posais, qui est au sein de structures, qui défendent clairement, qui affichent, les valeurs et l'éthique du logiciel libre, quel est justement l'état d'utilisation, et ça c'est vraiment bon, et visiblement ça va, de ce que je comprends, de ce que vous me dites, on est plutôt dans de, ça va dans le bon sens, quoi. Je veux dire, ça traduit aussi en acte l'engagement à l'April.
Oui, comme dans le cas de Jean-François et du SNES, hein, enfin de la FSU, les infrastructures sont majoritairement sur des logiciels libres, serveurs, applications web, etc. Et le matériel, par exemple, qu'on confie aux militants qui travaillent beaucoup avec nous, est laissé, on va dire, on leur laisse le choix du système d'exploitation. Parce que certaines personnes ne veulent pas prendre le temps de découvrir de nouveaux usages, et on se dit qu'on va pas les forcer et les braquer, mais plutôt leur montrer que sur l'ordinateur qui est équipé de Linux, ça marche peut-être des fois mieux que sur l'ordinateur qui est équipé de Windows, que LibreOffice, pour ce qu'on en fait, fonctionne tout aussi bien, voire mieux, que la suite Microsoft Office, etc. Et alors, chez nous, on a à peu près 47% d'ordinateurs personnels sous Windows et 42% sous Linux, par exemple, plus des Mac pour les services de communication qui font de la PAO, etc.
Merci de ces précisions. On va bientôt, on va avancer, parce qu'en fait, on n'a pas encore entré dans le vif du sujet. Avant, Jean-François, tu souhaitais apporter une précision?
Oui, juste un petit truc. Quand on organise nos congrès, donc tous les congressistes ont accès à une salle informatique qui est installée, et tous les postes sont sous Linux à ce moment-là. Les seuls postes qui peuvent être sous un autre système d'exploitation, ce sont ceux qui appartiennent au syndicat.
Et c'est vrai que du coup, en plus au sein de vos structures, les membres de structures syndicales sont plutôt des gens qui ont un engagement politique et qui sont du moins plus susceptibles de passer à GNU Linux et d'accepter ce pas supplémentaire. Et j'aurais peut-être une dernière question avant qu'on fasse notre pause musicale et qu'on rentre dans le vif du sujet de l'éducation. Puisque vous êtes des structures politiques, est-ce que vous avez le sentiment que les enjeux relatifs aux technologies numériques sont perçus justement comme des questions politiques, notamment en termes de conditions de travail, ce qui est un peu ce qui anime, le sel de vos structures, ou est-ce que entre guillemets ça reste perçu comme juste un sujet technique qui ne concernerait que les geeks? Là, je parle plutôt, j'en appelle plus à votre sentiment que quelque chose d'empirique, mais quel est votre sentiment par rapport à ça?
Je dirais, certains collègues sont sensibilisés à ces enjeux-là et voient la question comme politique, philosophique, etc. Et ceux-là, soit ils arrivent vers nous, ils ont déjà franchi le pas de s'équiper en logiciel libre, soit c'est l'occasion, parce que je travaille dans un service qui met les outils à disposition et qui peut faciliter la transition vers les logiciels libres. Et puis d'autres le voient un peu comme une question technique. Je veux dire, c'est plutôt ceux-là qui se disent que ils vont se concentrer sur leur mandat politique et ils n'ont pas de temps peut-être à dépenser à apprendre de nouveaux usages.
Alors, en ce qui nous concerne, ça fait une bonne quinzaine d'années maintenant que je m'occupe du numérique au sein du SNES, et ça a été l'occasion pour moi de lancer une dynamique à l'intérieur du SNES, justement pour en faire véritablement une question politique. Parce que c'est assez paradoxal, on s'aperçoit qu'on a des collègues qui vont défendre à tout craint, l'informatique libre, et puis d'un autre côté, vont pas hésiter à continuer de travailler avec un logiciel de Microsoft pour publier leurs textes ou pour faire leur présentation. On est avec ce paradoxe que pointait Renaud, à savoir que parfois il y a des collègues qui sont plus sur leur mandat politique hors numérique, et qui considèrent que c'est ou informatique et qui considèrent que ça, c'est plus des questions techniques. Mais une chose est sûre, c'est que actuellement, l'évolution de la société fait que les gens se posent de plus en plus de questions et que les collègues sont de plus en plus sensibilisés à toutes ces questions de logiciels libres et de, comment dire, de principes qui se retrouvent derrière.
Tout à l'heure, je parlais de prendre des décisions démocratiques. Le soutien au logiciel libre par notre organisation a fait l'objet de débats et de prises de position officielles. C'est-à-dire que même si tout le monde dans la fédération ne travaille pas avec des logiciels libres, tout le monde a été, ou la majorité d'entre nous, ont pris la décision de dire que notre organisation soutenait les logiciels libres.
Ça, c'est, je trouve, c'est important. Merci de ces précisions. Je vous propose, comme je vous le disais, de faire une pause musicale. Nous allons écouter Uncatchable d'Alexandre Zelanoff. On se retrouve juste après. On vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Nous venons donc d'écouter Uncatchable d'Alexandre Zelanoff, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Alors nous échangeons avec Jean-François Clerc du SNES FSU et Renaud de Colombel de la CFDT, deux syndicats de l'enseignement. Et nous discutions, voilà, alors déjà de leur pratique, enfin, au sein de ces structures, de leur pratique syndicale par rapport au logiciel libre. Et là, nous allons rentrer dans le vif, entre guillemets, de notre sujet, qui est la question de l'éducation, dans l'éducation nationale, du recours au logiciel libre, des enjeux qui y sont attachés. Et je pense que, Alors, je pense que tu es au courant qu'il y a eu une période assez particulière cette année, hein, du fait de la situation sanitaire à cause du coronavirus. Donc, la période du confinement et ce que cette période de confinement a nécessité en termes d'organisation, d'organisation ou même d'imagination de la part du personnel enseignant. Hein, donc, de mon humble prisme de lecture, j'ai comme le sentiment que l'importance du travail fourni par ces personnes a été largement sous-estimée. Et donc, cette période de confinement a soulevé des enjeux importants par rapport à l'usage des technologies numériques dans l'enseignement. Et particulièrement parce que de fait elles étaient indispensables pour assurer ce qui a été convenu d'appeler la continuité pédagogique. Hein. Donc ça va passer par les courriels, les outils de visioconférence, notamment voilà, on a beaucoup entendu parler de Zoom, il faut savoir qu'il y a eu aussi Big Blue Button qui existait en parallèle, des outils de travail contributifs plus poussés, enfin voilà, il y a eu toutes sortes d'outils disponibles. Donc on pourrait bien sûr faire un sujet entier là-dessus, voire plusieurs même. Moi déjà, peut-être dans un premier temps, ce qui pourrait m'intéresser, c'est d'avoir votre analyse générale des enseignements politiques qu'on a pu tirer de cette période, et peut-être éventuellement un enjeu en particulier qui vous a paru particulièrement marquant, emblématique de cette période. Je ne sais pas qui souhaite prendre... Jean-François Kerr.
Comment dire, la leçon principale, c'est qu'on a eu un ministère qui a été en dessous de tout, et un ministre qui a surtout joué de la communication et a été complètement débordé. Il faut dire que depuis des années, avec les suppressions de postes massives dans l'éducation nationale, que ce soit chez les enseignants, que ce soit chez les personnels techniques et administratifs, ils ont de plus en plus de mal quand même à arriver à assurer un certain nombre de choses. Mais là, on a quand même touché le fond. Il a fallu attendre près d'un mois avant que le ministère ne propose une suite complète de logiciels libres, non propriétaires, et surtout respectueux du RGPD. On a eu des discours particulièrement contradictoires de la part de l'administration, où en gros, des fois, ils encourageaient l'utilisation de logiciels dont on savait que toutes les données personnelles étaient pillés pour être envoyés et analysés aux États-Unis, et où en gros le discours de l'administration s'est écouté. Pour l'instant, vous vous débrouillez, puis après, on se posera les questions autrement. Donc là, c'est quand même assez catastrophique. Ça a montré que l'éducation nationale n'était pas prête du tout pour utiliser intelligemment le numérique. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir ce que va donner la consultation qu'a lancée le ministère pour ses états généraux du numérique de l'automne.
Oui, on reviendra dessus.
Voilà, on en reparlera après. Et surtout, les collègues se sont retrouvés particulièrement seuls. Parce qu'il faut quand même ne pas oublier une chose, c'est qu'en matière de vraie formation aux usages du numérique, on en a quand même très peu. On a surtout des formations qui consistent à apprendre à essayer de faire des choses ou utiliser des logiciels. Enfin, moi, je me souviens d'une formation à savoir utiliser une messagerie Gmail proposée par un plan académique de formation. C'est pas de ça dont les collègues ont besoin.
Je précise donc, que Gmail, c'est la solution courriel proposée par Google.
Voilà, c'est ça. On s'est retrouvé quand même particulièrement seul, créatif. On s'est beaucoup entraidé, mais au final, c'est pas nous qui avons eu la prime, c'est les chefs d'établissement.
Voilà, alors je partage à peu près le constat général que Jean-François a décrit, mais en plus positif, parce que il y a dans l'éducation nationale beaucoup d'agents qui font tout leur possible, et la fourniture justement de ces apps éducation FR, des logiciels libres mis à disposition dans les académies, est quand même intervenu, certes trop tard, mais il est intervenu. Il faut bien savoir que aussi l'éducation nationale est une machine qui fonctionne à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que quand la direction pour le numérique éducatif, la DNE, partie du ministère qui s'occupe du numérique éducatif, propose une solution, c'est pas elle qui la déploie pour les utilisateurs finaux. C'est après retransmis, les protocoles d'installation, de mise en route, etc. sont retransmis dans toutes les académies. et les académies, avec leurs propres moyens, essaient de suivre et de mettre en place ce qui était proposé par le ministère. Il est vrai que nous n'étions pas prêts, à tous les niveaux, à affronter cette crise du Covid et du confinement. Il y a beaucoup de choses à dire sur la formation des personnels, peut-être aussi sur l'enseignement, c'est-à-dire ce qu'on a fait passer comme connaissances capacité à utiliser le numérique aux élèves. Il y a évidemment un discours où à la fois on valorise le logiciel libre, entre guillemets, enfin je parle de l'État. L'État est souvent schizophrène. Hein. On fait un référentiel des logiciels libres pour les services de l'État, et puis dans le même temps, effectivement, on utilise des logiciels propriétaires. Et surtout, moi, ce que je regrette, c'est le manque de vision stratégique de l'État. S'il y a bien un organisme, un lieu où on doit déployer une vision stratégique sur le long terme, volontariste, c'est-à-dire en mettant des moyens, c'est au niveau de l'État.
Oui, clairement, et c'est pour ça aussi qu'on appelle... Jean-François, oui, je vais te donner la parole tout de suite. Je voulais juste souligner que c'est aussi ce qu'on défend. On l'a défendu, là, il y a eu le projet de loi de l'école pour la confiance, où on défendait, sur le cas du logiciel libre, une priorité au logiciel libre. Et en fait, on ne défend que ça, c'est-à-dire une vraie stratégie, une vraie politique publique qui pense en profondeur les enjeux relatifs aux technologies numériques, et notamment celle de la liberté. En plus, là, on parle pas de n'importe qui, mais celle des élèves, pour leur apprendre à avoir un rapport, on va dire, par rapport aux technologies qui prennent une place énorme dans notre société. Je pense que ce point est très important. Jean-François Clair, tu avais une précision que tu souhaitais apporter.
Oui, juste pour aller dans le sens de ce que disait Renaud, alors c'est vrai que mon discours était quand même particulièrement négatif. Il y a énormément d'agents qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pendant la période du confinement. J'ai été très très présent sur les réseaux sociaux et j'ai réussi à faire passer au nom du SNES un certain nombre de collègues, éventuellement des collègues non adhérents d'ailleurs, simplement des collègues qui regardaient sur les réseaux sociaux des choses de ce genre-là. Beaucoup de choses, beaucoup d'aide qu'on n'arrivait pas à obtenir par ailleurs, mais ces aides-là, en fait, j'ai souvent réussi à les obtenir par des collègues qui parfois travaillaient dans des DAN de telle académie ou de telle autre académie. C'était surtout au niveau des... Direction académique du numérique pour l'éducation. C'est donc les cellules académiques qui s'occupent du numérique, où il y a donc des collègues qui souvent sont parfois détachés, parfois ont un poste, comment dire, complet d'informaticien, etc. Mais donc c'est en particulier grâce à ces collègues-là qu'on a réussi à faire circuler un certain nombre d'informations et finalement à se débrouiller. On a créé nos propres réseaux. Juste une autre chose à propos de l'enseignement, c'est vrai que c'est assez catastrophique de voir la façon dont on peut aborder la chose informatique au sein du secondaire. Moi, je ne vais parler que du secondaire. On s'attendait tous à ce qu'il y ait un confinement. On s'attendait à avoir un certain nombre de consignes ministérielles. Ben, il ne s'agissait pas de passer par différentes étapes, etc. Il s'agissait de la parole du ministre, tout simplement. Hein, mais je sais que près de 15 jours avant qu'on se retrouve confiné, j'avais commencé à faire travailler mes élèves spécifiquement sur des procédures d'enregistrement de fichiers, de transfert de fichiers par messagerie, par l'environnement numérique de travail de l'établissement, etc., etc. J'ai fait ça sur mes propres heures de cours. On n'a eu aucune consigne là-dessus. Or, si on avait eu ne serait-ce qu'une petite consigne du style « Assurez-vous que les élèves savent correctement envoyer des fichiers, savent correctement lire ou connaissent les extensions de fichiers pour s'assurer qu'ils ont bien le logiciel qui leur permet de le faire », on aurait eu quand même beaucoup moins de déconvenus et sans doute qu'on aurait perdu beaucoup moins d'élèves.
Dans ce contexte particulier, hein, qui était le nôtre, j'ai des adhérents personnels de direction qui m'ont rapporté que ils se sont rendus compte à l'occasion du confinement que certains élèves ne savaient pas se servir de leurs environnements numériques de travail, hein, ne savaient pas se connecter, ne savaient pas envoyer un mail, etc. Donc il y a il y a de la formation à faire, on va dire, à tous les étages, et il faut mettre le paquet.
Parfait, enfin, parfait. Oui, on peut que soutenir cette prise de position. Pour prendre un ton, pour revenir à une chose positive peut-être qui a été évoquée, parler de l'engagement aussi de certains personnels, et que c'est aussi vraiment les membres de l'éducation nationale, les travailleurs de l'éducation nationale qui font l'éducation nationale, en fait, ce qu'est cette administration, et qu'on sait qu'il y a aussi des libristes, des gens convaincus qui œuvrent pour une meilleure prise en compte du logiciel libre. Jean-François Clerc, tu mentionnais que une plateforme avec des logiciels libres qui permettent justement aux enseignants de travailler dans cette période de confinement avait été mis à disposition. On mettra le lien, c'est appsnumérique.gouv, quelque chose comme ça. Il faut savoir que c'est vraiment aussi des libristes au sein de l'administration qui ont mis ça en place, qui ont poussé pour que ce soit mis en ligne. Bon, et vu les besoins, je pense qu'ils n'ont pas eu à beaucoup insister pour que ce soit fait, et qui ont aussi une vraie aussi réussite, mais là, effectivement, qui part de la base. Et d'ailleurs, nous avions reçu, et je vous invite les personnes qui s'intéressent à retrouver notre podcast, c'était le 65e émission de Libre à vous du 5 mai 2020, et nous avions reçu Luc Bourdeau, qui est donc responsable du pôle national de compétences logicielles libres, le pôle EOL, et qui était chargé du pilotage et du développement et de l'intégration des composants libres au sein de l'équipe de cette plateforme Apps. Donc a2ps.education.fr, et qui est en soi une belle réussite, mais justement de libristes au sein de l'administration. Et du coup, ce qui m'amène à m'interroger, à vous interroger plutôt, dans votre perspective de syndicale, on sait ce qui est important en termes de combat, de lutte syndicale notamment, c'est la question de rapport de force pour faire pencher les arbitrages décisionnels, les arbitrages politiques d'un côté ou de l'autre. Quelle est la place, qu'est-ce que en fait tout ça dit c'est pas du confinement, la réussite de ce site, de la place du libre et des libristes au sein de l'éducation nationale, de leur poids possible dans les prises de décision. Est-ce que ça évolue positivement et à l'inverse, peut-être de la place que peuvent occuper certaines entreprises comme Google et Microsoft, pour ne mentionner qu'elles. Quelle est votre lecture du rapport de force sur ces questions? Jean-François, Renaud de Colombelle.
Pardon, excusez-moi. Pour moi, la cause du logiciel libre, c'est parmi les personnels de l'éducation nationale. C'est-à-dire à un niveau individuel, on trouve beaucoup de gens qui sont impliqués dans le logiciel libre. Maintenant, le rapport de force, il faut savoir que les syndicats, outre les actions traditionnel hérité d'une action on va dire de longue date du mouvement ouvrier, etc. Outre ces actions de grève, de blocage, etc., nous, la CFDT, et les syndicats de la CFDT se positionnent plutôt sur un syndicalisme de proposition. C'est-à-dire un peu comme on fait pour faire progresser le logiciel libre à des niveaux associatifs ou individuels, d'être une force de proposition et de montrer que ça marche, ça pourrait mieux marcher, etc. Mais il faut savoir que malgré tout, si on n'est pas bon en présentation, en négociation, etc., on ne peut pas forcer le ministère à faire quoi que ce soit. Les syndicats ont un rôle entre guillemets consultatif. Alors on a des voix dans certaines commissions paritaires, de moins en moins d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet, mais c'est surtout par nos propositions et une démarche constructive qu'on arrive à amener l'administration à évoluer sur certaines pratiques.
Jean-François, je pense que ta position ne sera pas exactement la même peut-être.
Elle va pas être très 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 éloignée, parce que effectivement, l'enjeu, c'est d'arriver à être une vraie force de proposition. D'un autre côté, on se confronte quand même à des grosses entreprises qui ont des modes de fonctionnement, alors qui relèvent pas complètement du lobbyisme au sens où la loi le définit, mais on voit par exemple que la DNE a été quand même à un moment donné, direction nationale, direction du numérique pour l'éducation, elle a été quand même pas mal noyautée par des gens qui ont fait leurs armes d'informaticiens chez Google et qui finalement sont venus en vendant des idées Google. On parle souvent de Microsoft, mais Google est tout aussi inquiétant. Et d'ailleurs, l'ancien directeur de la DNE est parti pantoufler chez Amazon. Donc, c'est assez difficile. Par contre, effectivement, au niveau individuel, il y a une progression de la prise de conscience des collègues. Et là, c'est des collègues, toutes les personnes avec lesquelles on peut travailler. Hein. Il y a une vraie prise de conscience des collègues sur la nécessité de pouvoir utiliser des logiciels libres et de ne pas se retrouver complètement enfermé, prisonnier finalement de solutions qui privent de liberté.
Bien. Je vous propose, tu mentionnais, je crois que c'est Jean-François, tu parlais des états généraux du numérique, et je pense qu'on peut arriver à, justement, les états généraux du numérique, ça a été initié par le gouvernement pour répondre aux enjeux soulevés, ou plutôt de ce qu'ils ont considéré être les enjeux soulevés par la période du confinement, donc les états généraux du numérique pour l'éducation. Alors, avec des rencontres nationales de mémoire qui sont prévues début novembre et qui sont censées être le point d'orgue de ces états généraux. Et en amont de ça, donc, il y a des rencontres territoriales, si j'ai bien compris. Il y a une consultation en ligne, mais bon, ça, on sait que maintenant, ils aiment beaucoup faire des consultations en ligne. Là, autour de différents thèmes proposés, on mettra le lien, si ça vous intéresse, sur april.org. Donc voilà, on ne sait pas. Donc voilà, donc ça c'est cette plateforme, on va dire, qui a pour but de générer des propositions. On verra s'ils le retiendront ou ils retiendront uniquement celles qui répondent à ce qu'ils avaient prévu de faire. Je me positionne peut-être en disant cela. Quelle est votre lecture de ces états généraux du numérique? Qu'en attendez-vous? Est-ce que vous en attendez quelque chose? Je sais que Jean-François, je te passerai la parole, parce que j'allais dire que voilà, j'ai vu passer un communiqué du SNES-FSU qui disait notamment qu'il était à craindre que seul le numérique et ses possibilités d'ouvrir les portes des établissements à toutes les officines de l'EdTech, donc des technologies de l'éducation. On sait qu'il y a un gros marché là-dessus, enfin, donc il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc, c'est crainte que seules les officines de l'EdTech ne soient reconnues. Donc voilà, plutôt un regard critique, on va dire, et méfiant de ce que j'en entends. Jean-François Clerc, au SNES-FSU, qu'est-ce qu'on attend de ces états généraux du numérique?
Malheureusement, on n'en attend pas grand-chose, hein, pour différentes raisons. Hein. La première, c'est que c'est pas uniquement cette histoire de confinement et de Covid qui sont à l'origine de ces états généraux du numérique. Hein. Il y a en ce moment toute une stratégie de l'État pour en fait numériser l'ensemble des services de l'État et les numériser totalement. Donc ça s'inscrit aussi dans cette lignée-là, hein, parce qu'il n'y a pas que les classes virtuelles qui sont concernées. Ensuite, on a vu, ça remonte. On va remonter jusqu'à la commission Tello. Alors, la commission Tello, c'est quand Chirac était président de la République et que il y avait eu de grosses grèves d'éducation nationale parce qu'il y avait un grand malaise enseignant. Donc, il avait créé cette commission pour faire disparaître le malaise enseignant. Ils avaient associé ça à des possibilités, des forums en ligne, des choses de ce genre-là. Et en fait, on retrouve maintenant systématiquement tous ces outils où n'importe qui peut venir dire n'importe quoi sans être identifié. Donc, éventuellement, on peut même mettre parfois des robots qui vont raconter 10 fois la même chose. Et après, c'est dépouillé par des logiciels de traitement statistique des textes. Et globalement, il n'y a pas véritablement d'être humain derrière. En plus, quand on regarde les questions qui sont posées dans le cas du questionnaire qui accompagne la préparation de ces états généraux du numérique, bon, on s'aperçoit que les questions sont quand même relativement orientées. Alors, par contre, on peut espérer que les contributions que vont y faire les personnes, les groupes, alors que ce soit des groupes de pression, que ce soit des groupes constitués qui ont une idée à exprimer, etc., ça puisse apporter quelque chose au débat, sous réserve que quelqu'un prenne la peine de les compiler et de les lire toutes, ce qui, à mon avis, ne se produira certainement pas. Hein. Et enfin, oui, je reviens sur le communiqué de presse du SNES-FSU. C'est notre grande crainte. Hein. En gros, on a quand même un ministre qui, faut quand même pas oublier, est un juriste. Juriste qui a pondu, lorsqu'il était directeur général de l'enseignement scolaire, l'arrêté relatif au cahier texte numérique, qui était quelque chose de complètement lamentable en termes de rédaction. En gros, il s'agit de faire en sorte que l'éducation nationale coûte moins cher, et donc le seul moyen, c'est d'externaliser un certain nombre de services. Et pas uniquement les services administratifs, etc., etc., mais finalement, de faire en sorte que qu'un enseignant soit de moins en moins concepteur de son métier. Et là, on est en contradiction totale avec les principes du logiciel.
Et on est en contradiction totale avec, je pense, ce que revendiquent beaucoup de syndicats, à savoir faire confiance aux équipes, aux salariés, aux travailleurs, pour s'organiser sur leur lieu de travail, sur différents bassins, on va dire, de vie et de travail, pour maîtriser, pour être maître leur activité professionnelle. Par rapport aux états généraux du numérique, le SGN-CFDT s'y prépare. On n'a pas trop d'illusions, mais toutes les occasions sont bonnes à prendre pour faire avancer la cause. Donc, nous participerons, les syndicats dans les régions, les syndicats SGN dans les différentes académies pourront participer, et on essaiera de tout notre poids de faire avancer les choses dans la bonne direction.
Juste une question par rapport à ce que tu évoquais. Est-ce que les syndicats ont été sollicités en tant que structure spécifique par le gouvernement? Elles vont se saisir des outils proposés pour le faire?
Alors, dans les consultations en région, il y aura la possibilité pour les organismes comme les syndicats de faire valoir leur position et leurs propositions.
D'accord. Jean-François Clerc, tu souhaitais ajouter quelque chose, je crois.
Oui, ce que je voulais dire, c'est, entre autres, on n'a pas été sollicité directement, c'est-à-dire que on fait partie de toutes ces choses, ces organismes, ces sociétés, ces groupements de personnes, etc., etc., qui peuvent intervenir, c'est-à-dire que quelque part, ça fait partie de la démocratie, de la liberté d'expression, mais on n'a pas été associé particulièrement à quoi que ce soit, alors que le syndicat des personnels, ça aurait peut-être été intéressant qu'il soit un petit peu plus associé et pas mis au même niveau, par exemple, que la petite EdTech qui va proposer une espèce de moteur d'intelligence artificielle pour décrypter des QCM, ou bien la grosse entreprise que peut être la grosse division d'entreprise que pourrait être Microsoft Education. Ceci dit, nous aussi on va y participer, on va apporter nos contributions. Depuis 2017, on produit régulièrement pour nos adhérents des brochures relatives au numérique dans l'éducation nationale. Bon, là, on devait en produire une juste avant le confinement. Du coup, on n'a pas pu finaliser à ce moment-là. On va la publier là au moment de la rentrée, et puis on va la verser aux contributions pour ce débat. Ceci dit, nous on se prépare aussi du côté cette fois-ci de la FSU. On se dit que ça serait peut-être une bonne idée, alors non pas de faire des contre-journées, mais en tout cas de faire un truc qui soit un peu plus un peu plus en rapport avec les attentes que les personnels pouvaient avoir de ces états généraux.
Et vous êtes tous d'une manière plus large, pardon, d'une manière plus large que l'éducation nationale. On voit bien ces dernières années que les syndicats doivent faire face à une conception un peu particulière du dialogue social des deux derniers gouvernements, et en particulier de celui de l'actuel gouvernement. Mais nous, l'intéressant dans la prise de position, la construction d'une position, le recensement des forces, entre guillemets, la mise en place de formations, de partenariats avec des associations comme l'April, parce que nous, les syndicats, nous serons toujours là quand le prochain gouvernement remplacera l'actuel.
Oui. Et c'est sûr que la continuité de cette action-là est très importante. Notre échange, malheureusement, parce qu'on a encore des tas de choses à dire, mais touche à sa fin. Si vous avez une dernière chose à rajouter, voilà, vous avez une lutte chacun en matière pour un dernier mot, sinon je vous souhaiterais une bonne journée. Un mot de conclusion ou c'est bon pour vous ? Renaud.
Alors je vais commencer le mot de conclusion. Le syndicat, c'est vous. C'est-à-dire, le syndicat, ben, c'est les adhérents, c'est les gens qui se reconnaissent dans les valeurs et qui rejoignent le mouvement, comme l'éducation nationale, c'est les personnels qui la composent. Donc, n'hésitez pas à faire réseau, n'hésitez pas à faire entendre votre voix, rejoignez le syndicat qui correspond le mieux à vos idées, et ensemble, on arrivera peut-être à faire bouger le mammouth.
Jean-François Clerc, mot de fin.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que Renaud vient de dire. J'encouragerais peut-être véritablement les personnels, tous les personnels, à être particulièrement combatifs, c'est-à-dire à ne pas se dire oui, mais de toute façon, ça n'y change rien. On a toujours un rôle à jouer, on a un poids qui est quand même toujours extrêmement important. Et la société, c'est quand même nous. C'est pas uniquement les politiques qui sont au gouvernement, parce que comme disait très justement Renaud, ceux qui sont au gouvernement actuellement, ils y seront plus dans un an, dans deux ans, dans trois ans, mais les organisations syndicales, elles existeront encore.
Écoutez, un grand merci à tous les deux d'avoir pris ce temps d'échange. J'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que ça l'a été pour vous aussi, puis pour les auditeurs et auditrices. J'ai aussi une bonne fin de journée, puis une très belle rentrée. Combative, aussi combative que nécessaire. Voilà. Et ben écoutez, très bonne journée. François Clerc, donc du SNES FSU, et Renaud de Colombelle, du SGAN CFDT. Merci encore à vous. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée et bonne rentrée à tous et à toutes.
Idem.
Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'entendre un sujet donc enregistré il y a quelques jours, donc avec consacré au sujet du logiciel libre et des syndicats de l'éducation nationale. Nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Breath in the Light par Stellar Drone. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Nous venons d'écouter Breath in the Light par Stellar Drone, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio, causecommune.fm. Je précise que donc cette musique nous a été proposée par Eric Frodin du site auboutdufil.com, sur lequel vous pourrez trouver une présentation plus complète de l'artiste. Mais l'introduction, voilà, le compositeur talentueux originaire de Vilnius en Lituanie n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il a déjà composé une dizaine d'albums dans le genre depuis 2007. On pourrait qualifier son style musical de drone ambiant ou encore soundscape, sous-genre de la musique électronique. Vous retrouverez les critiques complètes d'un autre morceau de cet artiste sur le site auboutdufil.com. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles. Nous allons passer au sujet suivant. Les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi, qui met en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. C'est la chronique, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture, de Marie-Odile Morandi, donc, qui est animatrice de notre groupe de travail Transcription. Le thème du jour, en cette rentrée, n'oublions pas que partager est bon, retour sur les chroniques de Véronique Bonnet. Bonjour Marie-Odile. Marie-Odile, tu es avec nous ? Donc, Étienne essaye de nous connecter avec Marie-Odile. On va voir si on peut la récupérer. Je vais en profiter pour rappeler que la radio Cause Commune est une radio associative. Hein, donc, n'hésitez pas à nous soutenir, à soutenir la radio, par exemple, en faisant un don sur le site de la radio, causecommune.fm, parce que, comme toute radio, elle a des frais, hein, des frais tout simplement de loyer, de diffusion, par rapport à l'émetteur. Ah, alors, on entend Marie-Odile.
Tu m'entends, Marie-Odile ?
Alors, bon, écoutez, moi, je vais continuer sur mes annonces. Je vous laisse essayer de résoudre le problème. Et puis sinon, on fera autre chose. Donc, je vous disais, donc n'hésitez pas à faire un don pour la radio, pour couvrir les frais de fonctionnement de la radio. C'est une radio associative. Donc, vous allez sur causecommune.fm. Également, l'émission, elle est contributive. Hein, vous pouvez proposer des thèmes pour les sujets. Vous pouvez proposer des invités, des musiques. Vous pouvez également proposer des contributions à l'April ou à la radio. Vous trouverez toutes les informations sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm. Donc n'hésitez pas à proposer. Dans le cadre de notre émission, un point important concerne la post-production, le traitement du podcast, car en effet les podcasts resteront la mémoire et la trace des émissions. C'est pour ça qu'il faut apporter un soin particulier à leur traitement avant la mise en ligne. Dernièrement, pour la saison 3, le traitement a été fait principalement par Sylvain Kotzmann, qui était bénévole à l'April. Mais Sylvain ne peut plus assurer cette action, donc nous le remercions évidemment chaleureusement pour nous avoir aidés tout au long de la saison 3. Récemment, une autre personne, Antoine, a commencé à nous aider, mais ce serait bien si on pouvait avoir au moins une autre personne en plus pour répartir le travail. Donc si vous avez de l'expérience, des compétences, des idées, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aussi relayer notre appel que vous trouverez sur april.org et sur causecommune.fm. Alors ce que je propose, est-ce qu'on a récupéré Marie-Odile ou pas du tout ?
Non, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement de connectique au niveau des téléphones, mais là je crois que c'est au-dessus okay. De mes compétences pour régler.
Alors ce que je vais faire, c'est comme j'ai les notes de Marie-Odile, je vais essayer de le faire en direct à la place de Marie-Odile, on va voir ce que ça va donner.
Ça.
Donc Marie-Odile souhaitait revisiter en notre compagnie les chroniques de Véronique Bonnet. Véronique est professeure de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, discipline qu'elle a beaucoup appréciée dans sa lointaine classe de terminale. Elle est actuellement présidente de l'April après en avoir été vice-présidente pendant plusieurs années. L'intitulé général de ses chroniques est partagé et bon, expression que prononce assez souvent Richard Stallman, le fondateur du mouvement du logiciel libre, et il ajoute « Attaquer le partage, c'est attaquer la société ». Pourquoi ce choix en ce début de mois de septembre, traditionnel mois de rentrée ? Il semble à Marie-Odile qu'il est bon de régulièrement revenir aux fondamentaux du logiciel libre, de relire les textes de Richard Stallman, en plus à la lueur des explications d'une philosophe. On trouve les textes originaux sur le site gnou.org, traduits principalement par le groupe de travail Traduction de la philosophie Gnou de l'April. Ces textes sont à notre disposition en français. Depuis le 26 février 2019, Véronique nous a proposé 10 chroniques. Dans chacune, elle met le focus sur un texte qu'elle commente en utilisant, comme elle dit, sa discipline de prédilection qu'est la philosophie. Tous les textes sont de Richard Stallman avec une exception, un texte de Benjamin Mako Hill intitulé « Quand le logiciel libre n'est pas supérieur en pratique » qui a été intégré à la philosophie GNU en 2013. Certes, un logiciel peut être en pratique, efficace, pertinent, mais ne pas s'inscrire dans une logique d'émancipation, être privé de la préoccupation éthique du logiciel libre. Véronique souligne que dans le free software, la liberté est bien le but et l'efficacité un moyen de ce but. Cette finalité essentielle, la liberté, est mise en exergue dans le texte « En quoi l'open source perd de vue l'éthique du logiciel libre ?» Si on n'a rien à faire de considérations éthiques dont on dit qu'elles pourraient lasser, qu'elles pourraient énerver, argument fallacieux de l'open source, alors l'autonomie, la liberté sont versées au magasin des antiquités. Richard Stallman parle de crainte de la liberté comme s'il était devenu malpoli ou incongru de l'évoquer. Il appelle à une jubilation, à une fierté, et nous invite à ne pas hésiter à choquer intellectuellement. Nous devons leur dire que c'est du logiciel libre et qu'il te donne la liberté, je cite Richard Stallman. Et Véronique de préciser que dire logiciel libre et non open source, c'est faire avancer la cause du logiciel libre. En effet, un nom mal choisi donne aux idées, aux gens, une idée fausse, d'où l'importance d'utiliser la dénomination GNU/Linux. Si on se contente de dire Linux, dispositif technique à un moment donné du développement de GNU, alors on réduit l'informatique libre à un épisode qui sera seulement technique. On ne se réfère qu'à une partie du projet. GNU est un projet éthique, politique, humaniste. C'est écrire du code pour rendre l'utilisateur autonome, et l'utilisatrice évidemment. GNU est ce qui donne direction et sens à la communauté du logiciel libre. Véronique nous exhorte à ne pas oublier la racine idéaliste de ce projet quand on se réfère au logiciel libre, et que dire GNU, ce n'est pas dire « je », c'est dire « nous ». Racine idéaliste précisée dans le texte, idéalisme pragmatique. Le logiciel libre vient au-delà d'une seule affaire d'écriture de code. Elle cite Richard Stallman. C'est un but idéaliste qui motive mon travail pour le logiciel libre, propager la liberté et la coopération, rendre ainsi notre société meilleure, fraternelle. La transigence est extrêmement forte. Le logiciel doit être libre. Il n'y a aucune raison que l'informatique se trouve sous copyright. Comment serait une société soumise à des contraintes qui empêcheraient de développer l'inventivité qui relève de la rencontre de plusieurs ? Cela porterait atteinte à la liberté, à l'égalité, à la fraternité des humains. Et moi, Frédéric, je cite Marie-Odile, dans cet échange avec Véronique, tu as rappelé que Richard Stallman commence très souvent ses conférences en France par l'expression « Je peux définir le logiciel libre en trois mots, liberté, égalité, fraternité », ajoutant souvent un commentaire par rapport au pouvoir politique présent, quel qu'il soit, rarement dans cet état d'esprit. En 1997, Richard Stallman avait publié un article, on peut dire une fiction, intitulé « Le droit de lire ». Dans une de ses chroniques, Véronique décrit le scénario, prémonitoire d'une certaine façon, une histoire d'amour sur fond d'impossibilité d'accéder aux savoirs contenus dans les livres. Avoir accès à l'ensemble des savoirs, permettre de les partager, ce sont des propositions du projet GNU. L'architecture informatique doit permettre l'accès aux documents et aux processus. Véronique rappelle l'un des slogans de l'April, « Informatique libre, société libre ». Le texte, « Les raisons d'écrire du logiciel libre », se présente sous la forme d'une énumération de 10 raisons qui vont d'une vision large vers des raisons plus étroites, mais qui ne demande qu'à grandir. Ainsi, Véronique remercie le logiciel libre d'avoir fait grandir nos raisons d'écrire du code. Dans un autre registre, on pourrait encore dire, plus politique, deux textes sont commentés. Mesures à la portée des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre. Pour Richard Stallman, la mission de l'État est d'organiser la société avec pour objectif la liberté et le bien-être de la population. Prendre des décisions pour d'autres humains impose des devoirs pour accomplir cette mission humaniste. Respecter les citoyens comme humains, et ainsi les gouvernements se respecteront eux-mêmes. Je vous laisse relire la transcription de cette chronique dans laquelle chaque considération devrait pousser à un engagement fort. Quel niveau de surveillance la démocratie peut-elle endurer ? Certes, pour fonctionner, la démocratie doit se protéger, mais il faut aussi que celle-ci soit lisible, car le peuple doit savoir ce qui s'y passe. Il ne s'agit pas de supprimer la surveillance, il s'agit de la réduire pour éviter les excès. Les lanceurs d'alerte, avec référence à Edward Snowden, doivent pouvoir agir, et pour cela il faut préserver un espace intime qui permettra le recul pour la réflexion et la critique. Bien entendu, chacun d'entre nous doit être prudent en étant acteur de la protection de sa propre vie privée. Pour cela, logiciels libres et solutions libres sont proposés avec une mise en garde. Méfiez-nous, connectez, gardons nos données dispersées, ne facilitons pas les choses. Une autre façon de faire avancer la cause du logiciel libre consistera à dire non à l'informatique injuste, même une seule fois. Tout rejet qui va dans le sens émancipateur est bon à prendre. Dans cette chronique, Véronique nous parle de son expérience d'enseignante pendant la période de confinement et des pas qu'elle a fait en refusant, avec une fermeté bienveillante, d'utiliser les logiciels et les solutions privatrices qui lui étaient proposées. Tout refus ponctuel est constructif. Il permet d'alerter nos interlocuteurs, mais il ne suffit pas. Véronique a proposé à ses étudiants des alternatives libres pour les aider à avancer vers l'autonomie, pour leur montrer combien elle les respecte et combien, en se détachant des solutions propriétaires, ils se respecteront eux-mêmes, gagneront en liberté et avec eux, leur communauté. En cette période de rentrée scolaire, il est impératif de rappeler, marteler partout où cela est possible, pourquoi les écoles doivent utiliser exclusivement du logiciel libre afin de faire de la bonne éducation. Véronique nous rappelle que dans ses arguments, comme souvent, Richard Stallman part de ce qui lui paraît le moins essentiel, l'argument monétaire. Les logiciels libres sont souvent gratuits, pour arriver en passant par la formation des futurs informaticiens qui, par l'accès au code source, pourront lire beaucoup de bons codes, à l'éducation morale, l'habitude d'aider les autres. Une éducation tournée vers les autres qui ne sera pas repliée sur soi, qui ouvre à l'autonomie, ce que le pragmatisme de courte vue parfois ne comprend pas. Éduquer, c'est amener quelqu'un à sortir de ses intérêts particuliers, de ses impulsions immédiates, de ses préjugés, pour aller vers les autres. Enseigner un programme non libre revient à enseigner la dépendance, ce qui est contraire à la mission de l'école. dit encore Richard Stallman. D'où la proposition de ne distribuer et n'utiliser que du logiciel libre dans les écoles. Outre le devenir autonome des individus, cela garantira l'avenir politique d'une nation. Et pourtant, il y a parfois des contrats étonnants qui sont passés avec les GAFAM, donc les géants du web, qui se gavent de données personnelles. Hélas, notamment par notre ministère de l'Éducation nationale, mais on en a déjà plusieurs fois parlé, et pas plus tard que tout à l'heure. L'école a une mission sociale, celle de former les élèves à être citoyens d'une société forte, capable, indépendante, solidaire et libre. Ainsi formés, les humains qui utilisent maintenant tous l'informatique pourront contrôler leur propre ordinateur, auront leur autonomie préservée et la liberté de coopérer, de vivre dans la droiture morale. À la façon d'un clin d'œil, Véronique nous propose d'en décliner la formule de Laurence Lessig, une formule beaucoup appréciée par mon collègue Étienne, « Code is law » en « Code is education ». Puisqu'écrire du logiciel libre fait grandir, contribuer au logiciel libre amène à dépasser son propre horizon, aller vers les autres, s'ouvrir. Marie-Odile invite les auditeurs et auditrices qui écoutent en direct l'émission, ou qui écouteront le podcast, à relire ses transcriptions des chroniques de Véronique Bonnet. Elle espère qu'elle nous fera encore partager ses commentaires de philosophie des textes de Richard Stallman durant la saison 4 de Libre à vous, car cela est bon. Et je précise évidemment que Véronique Bonnet continuera à nous proposer des chroniques partagé et bon dans le cadre de Libre à vous saison 4. Voilà, c'était la chronique de Marie-Odile, qu'on a pu faire vu qu'elle envoie ses notes en avance. Donc je ne sais pas si on a pu la récupérer ou visiblement pas du tout. En tout cas, on espère que la prochaine fois on l'aura et on fera un test une fois l'émission terminée pour comprendre ce qui s'est passé. Donc c'était la chronique, dite par moi, mais de Marie-Odile Morandi, donc, qui est animatrice du groupe de travail Transcription de l'April, qui est également administratrice de l'April. J'invite aussi les gens qui nous écoutent à rejoindre ce groupe de transcription. Je disais tout à l'heure que l'émission, l'April, c'est une émission contributive, l'April, c'est une association contributive. Les transcriptions sont faites par des bénévoles et on a besoin de gens pour aider, alors, soit à transcrire des textes, soit simplement à relire des textes. Il n'y a pas forcément besoin de compétences, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de temps, il y a des textes qui sont relativement courts, donc n'hésitez pas à vous connecter sur le site de l'April pour découvrir les activités, notamment du groupe transcription, donc april.org. Alors, on va passer maintenant aux annonces de fin. Alors, les annonces de fin, mais je crois qu'en fait, je les ai déjà faites tout à l'heure, mais je vais quand même vous rappeler donc rapidement notre appel pour le traitement des podcasts. Le montage audio, c'est un travail très important. Et d'ailleurs, plus globalement, si vous souhaitez aider la radio à traiter les podcasts de toutes les émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous connectez sur causecommune.fm ou sur april.org et vous trouverez les informations de contact. Donc voilà, parce que c'est un point important, le traitement de ces podcasts. Le direct, c'est évidemment essentiel à la radio, mais beaucoup de gens qui écoutent en podcast et donc il y a un travail à faire pour rendre ces fichiers de podcast de meilleure qualité possible. Je précise aussi qu'un des travaux qui est fait par les personnes qui montent le podcast et ensuite les personnes qui le découpent, c'est de justement découper les podcasts en sujets séparés de manière à faciliter l'écoute. Donc par exemple, dans une émission où on a un sujet long et deux sujets courts, vous aurez le podcast pour toute l'émission et vous aurez un podcast pour les deux sujets courts et un podcast pour le sujet long. Je rappelle aussi donc que vous pouvez faire un don pour la radio Cause Commune pour financer tout simplement la partie matérielle de la radio. Donc vous allez sur causecommune.fm. Alors, est-ce qu'il restait d'autres annonces? Alors, il y a peut-être quelques événements qui commencent à être réorganisés. Alors évidemment, ça va dépendre des conditions sanitaires de la rentrée. Il y a notamment la fête des possibles. Donc je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org. Vous verrez quelques événements qui sont organisés. Alors certains aussi sont organisés tout simplement à distance. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org. Vous y trouverez tous les événements qui sont organisés en France, en Belgique et dans d'autres pays, vous permettant effectivement soit de découvrir le logiciel libre, soit de vous perfectionner autour du logiciel libre, en tout cas de trouver des événements autour des libertés informatiques. Alors, notre émission se termine, un petit peu chaotique la fin, mais c'est la reprise, c'est comme ça. Donc je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Marie-Odile Morandi pour avoir évidemment préparé sa chronique, Jean-François Clair, Renaud de Colombelle, à la régie et au sujet long, Étienne Gonu. Ça a été aujourd'hui avec les conditions, Étienne.
Un peu sportif, comme tu as pu
voir. Un peu
sportif,
je pense qu'on méritera peut-être une bière après, ou je sais peut-être. Pas. Quoique toi, t'es en vélo, donc c'est peut-être pas très bien.
Un plaisir de revenir en régie, ça je peux le dire.
Alors en tout cas, c'est un grand plaisir de revenir effectivement au studio. Merci également à Sylvain Kutzmann, Antoine, bénévole à l'April, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio qui s'occupe de la post-production des podcasts. Merci également à Quentin Gibault, qui bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org et sur le site de la radio causecommune.fm toutes les références utiles. Vous pouvez également trouver les moyens de nous contacter pour nous faire des retours. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour poser une question ou simplement nous laisser un message. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 8 septembre 2020 à 15h30. Notre sujet principal portera sur l'initiation à la programmation pour les femmes avec Ada Tech School, Ladies of Code Paris, Django Girls. Malgré ces noms, on parlera en français. Et nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 8 septembre. Et d'ici là, portez-vous bien.
Commune. Retour sur 93.1 à 21h.